Chapitre 12. Mary avait congédié ses deux amants. Du moins, elle croyait s'être prononcée d'une manière assez formelle pour que Mr. Clarkson pût savoir à quoi s'en tenir. Mais quelle différence dans la manière dont elle avait été comprise. Celui qu'il aimait plus que sa vie considérait son éloignement comme définitif et n'avait plus d'espoir. Il respectait trop son amour pour penser qu'il fût indigne de Mary, mais il lui suffisait de n'avoir pas su lui plaire pour accepter l'arrêt qu'elle avait prononcé. Et dans sa douleur, il lui venait à l'esprit 1000 projets insensés. Parfois, il songeait à s'enrôler, parfois à chercher l'oubli dans le gin ou dans l'opium. Et s'il résistait à l'entraînement de l'ivresse, c'est que le souvenir de sa mère se dressait alors devant lui et le préservait du mal. Son temps et sa force étaient un dépôt sacré, dont il devait compte à la pauvre veuve. Et retournant à l'atelier, il se remettait au travail, calme en apparence, mais le désespoir au cœur. Mr. Carson, au contraire, persistait à ne voir dans la conduite de Mary qu'une fantaisie de coquette, un caprice irritant qui la rendait plus désirable encore. Et Sally, presque chaque jour, glissait un billet passionné dans la main de la pauvre Mary, qui, ne pouvant s'en défendre sans attirer l'attention de ses compagnes, avait pris le parti de recevoir toutes ses lettres et d'en faire un paquet sans les lire, pour les rendre toutes à la fois quand l'occasion s'en présenterait. Bien plus encore, elle ne pouvait aller nulle part sans rencontrer Mr. Clarkson, qui lui devenait odieux. Plus elle le fuyait, plus il semblait s'attacher à la poursuivre, tandis que Jem ne revenait pas même dire bonjour à son père. Ne revenait pas, sous un prétexte quelconque, voir si par hasard elle n'avait point changé d'avis. Comment supporter à la fois cette persécution incessante et ce complet abandon? Il lui devenait impossible de rester calme, de se livrer à un travail assidu sans faire un violent effort sur elle-même, et le chagrin l'accablait dès qu'elle n'avait plus autour d'elle de distraction assez puissante pour l'empêcher de sentir. L'état de son père ne l'inquiétait pas moins. Il était si changé, si malade, bien qu'il ne la voie pas. Mary travaillait le soir et prolongeait ses veilles assez avant dans la nuit pour que le lendemain il pût avoir à manger. Mais forcé de partir de bonne heure et d'aller reporter ou chercher de l'ouvrage avant d'arriver chez Miss Simmons, elle ne pouvait pas faire ses emplettes, et c'était de l'opium que son père allait acheter avec l'argent qu'elle lui laissait. Quant à elle, pauvre enfant, le jeûne qu'elle endurait chaque jour était bien long depuis le dîner de Miss Simmons, qui avait lieu à 1 heure jusqu'au lendemain, sans rien prendre, ne se couchant qu'après minuit, et trop jeune encore pour supporter la faim. Un soir qu'elle s'arrêtait au milieu de sa chanson pour soupirer longuement, elle vit entrer Marguerite, qui depuis longtemps était absente, ayant accompagné le professeur de musique dans une tournée qu'il avait faite. Son grand-père en avait profité de son côté pour aller herboriser au loin, de sorte que Mary s'était trouvée complètement seule. « Oh, que je suis content de te revoir !» dit-elle en embrassant Marguerite de tout son cœur. « Prends garde, c'est bien, va tout droit. Maintenant tu peux t'asseoir. C'est la chaise de mon père. Il me semble que tu rapportes le bonheur, et comme tu as bonne mine, je ne t'ai jamais vue si fraîche. » « Les médecins ordonnent le changement d'air à leur malade, » répondit l'aveugle en riant. « Comme tu vois, cela réussit à tout le monde. Oh, je t'en prie, raconte-moi ton voyage. Où êtes-vous donc allé ? » ?»« Ce serait bien long à dire. Nous avons parcouru tant de pays. Nous sommes allés à Bolton, à Bury, à Oldham, à Halifax. Et devine qui j'ai rencontré là. Mais je ne sais pas, dépêche-toi de me le dire, car je n'aime pas à chercher. » Eh bien, figure-toi qu'un soir je me rendais à la salle de concert, avec l'enfant de notre hôtesse qui me conduisait, quand j'entends marcher et tousser derrière moi. Ou je me suis trompé, ou c'est Jem Wilson, que je pense en moi-même. On tousse encore. On éternue, et me voilà sûr du fait. Je n'osais pas trop rien dire, car enfin ça pouvait être un étranger. Mais tu sais que les aveugles ne doivent pas craindre autant que les autres de se servir de leur langue. Alors, je me mets à dire « Jem Wilson, est-ce vous ?» Je ne me trompais pas. « Savais-tu qu'il se trouvait à Halifax ?»« Non, » répliqua Mary d'une voix triste. Car pour son cœur, c'était les antipodes. Un lieu inaccessible, au regard plein de repentir, au muet langage d'amour. « Il y est pourtant, » continua Marguerite. « Ses patrons l'ont envoyé là-bas pour monter une machine. Il fait bien ses affaires, car à présent, il a 5 ou 6 hommes sous ses ordres. Et puis, je ne sais quelle invention il a faite, mais son patron lui a acheté son idée, s'est fait breveter pour ça. Et Jem est un gentleman pour le reste de ses jours, avec l'argent que son maître lui a donné. Mais tu le savais, Mary ?»«
Non, »
répondit-elle à demi-voix. « C'est étonnant. Je croyais que tout ça lui était arrivé avant qu'il eût quitté Manchester. Cependant, tu l'aurais su. Toujours est-il qu'il a reçu 200 ou 300 livres pour cette invention. Mais qu'as-tu donc, Mary ? Tu prends tout ce que je dis là si tristement. Je suppose que tu n'as rien eu avec Jem, pourtant. »
« Oh, Marguerite !» s'écria-t-elle en fondant en larmes. « Tu ne sais pas qu'un soir il est venu. J'avais toutes sortes d'ennuis et j'étais comme en colère. Mon Dieu, je m'arracherai la langue quand j'y pense. Il me dit qu'il m'aimait et me demanda si je voulais être sa femme. Moi, je ne croyais pas l'aimer. J'ai dit que je ne le voulais pas. Et il m'a cru, Marguerite. Il est parti si triste, si fâché. Et maintenant, je ferai tout au monde. »
Les sanglots étouffèrent sa voix.
« Marguerite !» continua-t-elle, en essuyant ses yeux et en regardant son amie avec anxiété. « Dis-moi ce que je puis faire pour qu'il revienne. Faut-il que je lui écrive ?»«
Non, » répondit l'aveugle. « Les hommes ont de si drôles d'idées. Ils veulent bien nous courtiser, ça les amuse, mais ils gardent ce plaisir-là pour eux et ne supportent pas que les femmes s'en mêlent. »
« Ce n'est pas un billet doux que je veux lui envoyer, » dit Mary, presque indignée.
« Je le sais bien. » Mais tout ce que tu diras, c'est pour lui faire comprendre que tu serais heureuse de te marier avec lui, et je crois qu'il vaut mieux le laisser faire. Il saura bien le deviner.
« Et s'il ne l'essaye pas ?» dit Mary en soupirant. « D'ailleurs, comment le devinera-t-il puisqu'il est à Halifax ?»«
Sois donc tranquille. Le désir trouve toujours le moyen, et tu ne voudrais pas de lui s'il ne le désirait pas. » Puis d'un accent doux, elle ajouta. « Prends patience, tout cela finira bien, mieux que si tu cherchais à l'arranger. »
« Il est si difficile d'avoir de la patience, »
murmura la pauvre Mary.
« Oh oui, » reprit l'aveugle, « c'est l'une des choses les plus pénibles de ce monde. Attendre est bien plus dur que d'agir, et je m'en suis aperçu quand j'ai perdu les yeux. Chacun l'a éprouvé en soignant un malade, mais vois-tu, c'est une leçon que Dieu nous envoie et qu'il nous faut apprendre. Es-tu allé voir sa mère ?»
demanda-t-elle après quelques instants de silence.
« Non, la dernière fois que je l'ai vue, je l'ai trouvé de si mauvaise humeur contre moi, quand, n'y retournant pas, j'ai cru lui faire plaisir.
À ta place, j'irai pourtant. Jem en entendrait parler. Ça vaudrait mieux qu'une lettre. Et puis tu serais peut-être bien embarrassée de lui écrire, de faire qu'il te comprenne, sans en dire plus qu'il ne faut. Mais grand-père vient de rentrer. Je ne l'ai pas encore vu et ne veux pas le faire attendre. »
Elle se leva pour partir et s'arrêta près de la porte.
« Mary, j'ai quelque chose à te dire. » reprit-elle. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. Grand-père et moi, nous connaissons la misère, et nous savons que ton père est sans ouvrage. J'ai maintenant plus d'argent que je ne peux en dépenser. Je voudrais bien... Je t'en prie, Mary, ne refuse pas cette pièce d'or. Tu me la rendras quand le travail ira bien. »
Et ses yeux s'emplirent de larmes.
« Merci, Marguerite. Nous ne sommes pas si gênés que tu crois. Mais cependant... »
ajouta-t-elle en se rappelant tout à coup la pâleur de son père et le seul repas qu'il faisait par jour,
« si cela ne te prive pas trop, je le prendrai tout de même et je travaillerai un peu plus dur pour te le rendre. Ça ne fâchera pas ton grand-père. »
C'est lui qui, plus que moi, y a pensé. D'ailleurs, nous en avons bien d'autres et je ne veux pas que tu te tourmentes. Tu me le rendras quand tu pourras. Il est triste d'être aveugle, mais l'argent vient si vite à présent et j'ai tant de plaisir à gagner, puisque c'est en chantant.
« Je voudrais bien pouvoir chanter aussi, » dit Mary en regardant la pièce d'or qu'elle tenait dans sa main.
« Chacun a ses dons, » répliqua Marguerite. « Lorsque j'avais mes yeux, c'est ta beauté que j'enviais. Nous sommes comme les enfants, nous désirons toujours ce que nous voyons chez les autres. Mais pour en revenir à toi, si tu manquais d'argent, ce serait bien mal de ne pas me le dire. Je ne te le pardonnerai pas. »
Et malgré la nuit dont ses yeux étaient voilés, elle s'en alla bien vite, autant pour échapper à la gratitude de son ami que pour aller rejoindre son grand-père. Cette visite avait fait un grand bien à Mary,
Elle lui avait rendu un peu de courage et d'espoir, et l'affectueuse sympathie de Marguerite avait été bien douce à la pauvre délaissée. Enfin, si peu de chose que soit l'argent à côté de la tendresse, il n'était pas jusqu'au souverain d'or qui ne lui apporta quelque consolation. Tant de choses pouvaient être acquises avec une pareille somme. D'abord un bon souper pour son père, et craignant qu'on fermât les boutiques, elle se hâta de courir chercher tout ce qu'il fallait pour le régal qu'elle voulait lui offrir. Une chandelle. Un bon feu éclairèrent bientôt la pauvre chambre, et le père et la fille purent enfin s'asseoir et faire ensemble un repas qui leur parut extravagant dans son luxe. Il y avait si longtemps qu'ils ne s'étaient rassasiés. « Le manger donne du cœur, » disent les gens du Lancashire, et le lendemain de ce bon repas, Mary trouva le courage d'aller voir Jane Wilson, ainsi que Marguerite le lui avait conseillé. La veuve était seule, et fit à la jeune fille un accueil plus gracieux que lors de sa dernière visite. Alice venait de sortir. « Elle est allée à la poste, » dit Jeanne. « Bien sûr, pour rien encore, pour demander s'il n'y aurait pas une lettre de Will, son neveu, ou plutôt son enfant, celui qu'elle a élevé et qui est dans la marine. » « Qui lui a fait penser qu'elle peut avoir une lettre ?»« C'est un voisin qui arrive de Liverpool, et qui a raconté que le navire de Will était dans le port. » Depuis ce temps-là, ma pauvre Alice est toujours la main derrière l'oreille pour entendre le moindre bruit qui passe, croyant toujours que c'est Will qui arrive. Enfin, elle s'est mise dans la tête qu'il avait dû écrire, et rien au monde n'a pu l'empêcher d'y aller voir. Cela m'inquiète, et je ne voulais pas la laisser partir, car ce n'est rien d'être sourde. La voilà presque aveugle. À peine si maintenant, elle y voit se conduire. Pauvre chère âme. Je ne me doutais pas de ça. Quand elle était notre voisine, elle avait de si bons yeux. C'est tout dernièrement que ça lui est venu. Mais tu ne parles pas de Jem, dit la mère impatiente de raconter tout ce qui lui tenait au cœur. Comment va-t-il? Demanda Mary, dont les joues s'empourprèrent. Je ne sais pas au juste. Il disait qu'il allait bien dans sa lettre de mardi, car il est parti pour Halifax il y a déjà longtemps. Mais sais-tu le bonheur qui lui est arrivé? Au grand désappointement de la veuve qui espérait le lui apprendre, Mary avoua qu'elle avait entendu parler de l'invention de Jem et de la somme qu'il avait reçue. « Mais on ne t'a pas dit ce qu'il a fait de son argent, » reprit vivement la mère. « Comme c'est bien de lui de ne pas en avoir parlé. Eh bien donc, aussitôt qu'il eut touché la somme, il s'en va trouver son maître, et lui demande de l'aider pour acheter, avec ça, une rente viagère. En mon nom et en celui d'Alice, pauvre créature. J'ai bien peur qu'elle n'en jouisse pas longtemps. » « Si Mary, nous voilà deux bourgeoises avec des rentes, s'il vous plaît, pour le reste de nos jours. »« 20 livres par an, est-ce qu'ils m'ont dit. Si les enfants vivaient, quel bonheur !» ajouta-t-elle en essuyant une larme. « Ils auraient pu manger tout leur comptant et aller à l'école. Ils sont encore plus heureux dans le ciel où ils se trouvent. Mais enfin, j'aimerais tant les avoir. » Mary, trop émue pour répondre, ne put que saisir la main de Jeanne et la presser dans les siennes. Et craignant de ne pouvoir dissimuler son trouble si la conversation ne changeait pas, elle adressa quelques questions à la veuve sur le neveu qu'Alice attendait et sur la vie qu'il avait menée. La veuve fut bien un peu froissée du peu d'attention que Mary semblait donner à Jem et du peu d'importance qu'elle attachait à ses actes, mais le bonheur la rendait indulgente, et répondant à ce que lui demandait la jeune fille. « Il vient d'Afrique, » dit-elle, « ou de quelque endroit approchant. C'est un bon garçon, » mais qui n'a pas de gemme à la cheville. Il a envoyé dans le temps quelque chose comme 5 livres à sa tante. J'avoue que c'est déjà bien de sa part, mais qu'est-ce auprès d'une rente ?»«
Tout le monde ne peut pas avoir 300 livres d'un coup, » balbutia Mary.
« Assurément non. Il y en a peu comme Jem, en fait, de cœur et d'idées. Mais j'entends le pas de ma sœur, » dit-elle en se dirigeant vers la porte pour ouvrir à la vieille fille. Alice, couverte de poussière, avait l'air triste et fatiguée.
« Pas de lettre ?» demanda la veuve.
« Non, » répondit Alice. « Peut-être que demain j'en aurai une, mais l'attente est bien dure, si encore on m'avait dit qu'il était en bonne santé. Si seulement j'étais sûre qu'il ne soit pas noyé, j'attendrais patiemment. »
Et elle se mit à pleurer.
« Je croyais, lui dit Mary, que vous aviez trop de courage pour manquer de résignation, et je m'en voudrais moins à présent. » De ne pas savoir attendre, puisque vous, si bonne et si parfaite, vous le trouvez difficile. Je te demande bien pardon, ma fille, ainsi qu'à Dieu d'affaiblir ta foi, en te montrant ma faiblesse, reprit la pauvre vieille. La moitié de la vie se passe dans l'attente, et j'ai tort de me plaindre après toutes les bontés que je tiens du ciel. Une autre fois, je briderai ma langue. »
Et ses larmes redoublèrent.
« Allons, ne vous désolez donc pas, je mets la bouilloire au feu, et Mary, qui prendra le thé avec nous, va nous faire des tartines. »
Comme les trois femmes s'asseyaient autour de la table, un coup violent fut frappé à la porte. En même temps, un homme entra, sans attendre de réponse, et demanda si ce n'était pas là que demeurait George Wilson. La veuve se retourna, et elle s'apprêtait à raconter la mort de son mari, quand la pauvre Alice, devinant par le cœur la présence de celui que ses yeux voyaient à peine, s'écria en se jetant au cou de Will.
« Mon enfant, mon cher enfant !»«
Vous pouvez mieux comprendre que je ne saurais le décrire, le touchant accueil qui fut fait au marin. » Mistress Wilson parlait, riait et pleurait tout à la fois. Mary ouvrait de grands yeux pour reconnaître un ancien ami dans ce brave matelot, à la figure bronzée, à la physionomie ouverte, à la voix haute, pendant qu'Alice, dont les pleurs coulaient doucement en silence, mettait ses lunettes pour mieux voir les traits chéris de son enfant adoptif, et que celui-ci inclinait la tête sous la main tremblante de la vieille femme. Afin qu'elle pût se convaincre, en lui touchant les cheveux et le visage, qu'elle ne se trompait pas, et qu'il était bien là.